Les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins, c'est une question, un problème récurrent. La pratique a été encadrée ces dernières années, notamment après le scandale du Mediator. Et voilà ce matin une étude qui tend à montrer que les labos gardent une influence sur la pratique de la médecine. Bonjour Bruno Goupil.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, co-auteur de cette étude réalisée par des médecins, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs de Rennes à partir de données publiques. Votre conclusion, c'est que les médecins qui sont le moins en lien avec l'industrie pharmaceutique prescrivent mieux et moins cher, c'est bien ça ?
Alors voilà, tout à fait. En tout cas, la première chose que je veux dire, c'est que je déclare moi aucun lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Donc dans notre étude, voilà, on a tout à fait croisé deux types de données qui sont des bases de données publiques. Donc d'un côté, on a croisé le montant des cadeaux qui sont offerts aux médecins généralistes par les firmes pharmaceutiques, qu'on appelle souvent les labos. Donc par exemple, ça peut être des restaurants, des nuits d'hôtel, des invitations. Donc ces informations, elles sont disponibles sur la base Transparence Santé qui a été créée dans les suites du scandale du Mediator.
Qu'est-ce qui déclare ça ? Ce sont les médecins ou les labos ?
Alors c'est vrai, c'est une information importante, ce sont les laboratoires qui ont l'obligation de déclarer ces liens d'intérêt, notamment ces cadeaux qui sont offerts aux médecins.
Donc ça c'est la première base.
C'est ça.
Et
on a croisé ces informations avec les prescriptions des médecins généralistes et qui se trouvent voilà, dans une grande base de l'assurance maladie qui répertorie toutes les données de remboursement et donc de prescription des médecins.
Et donc vous avez établi un lien entre les médecins qui reçoivent des cadeaux et la qualité ou la cherté de leurs prescriptions, c'est ça ?
Bien. Ce qu'on a trouvé, c'est que sur les 41 000 médecins qui ont été inclus dans cette étude, la première chose, le premier enseignement, c'est que 90% des médecins, déjà, ont reçu au moins un cadeau entre 2013 et 2016. Après, dans l'analyse, ce qu'on peut dire, c'est effectivement que les médecins qui n'ont jamais reçu de cadeau des firmes pharmaceutiques ont en moyenne des prescriptions qui sont moins coûteuses, qui prescrivent en moyenne moins de médicaments déconseillés par l'assurance maladie, et enfin, qu'ils prescrivent plus de médicaments génériques, ces médicaments qui, pour la même efficacité, ont un coût moindre pour l'assurance maladie.
Et est-ce qu'on peut le formuler dans l'autre sens ? Est-ce que ceux qui ont le plus de liens ou le plus reçu de cadeaux prescrivent moins bien et plus cher ?
Ben, on peut formuler dans l'autre sens. Nous, ce qu'on a cherché, c'est des associations statistiques. Donc, effectivement, on peut faire les phrases dans l'autre sens. On a comparé comme groupe témoin ce groupe de médecins qui n'avaient reçu aucun cadeau. Maintenant, voilà, on peut tourner les chiffres dans l'autre sens. Notre étude suggère en fait assez simplement que des millions d'euros, même plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont investis chaque année par les laboratoires, notamment en cadeaux, mais là c'est qu'une part en fait, qu'une seule part utilisée dans les techniques d'influence par les firmes pharmaceutiques, eh bien qu'ils ont bien une influence sur les comportements de prescription et qui en fait, ces dépenses, elles ne sont pas à perte, autrement dit et en manière.
Oui, que les laboratoires, ils attendent un retour, quoi. Ils font pas ça pour le plaisir.
C'est ça que simplement que la publicité, ça marche. Que finalement, il n'y a pas vraiment de repas gratuit. Si un laboratoire il décide de faire un cadeau, c'est qu'il pense qu'il peut en tirer un bénéfice.
Et du coup, on peut en tirer quoi comme enseignement ? Est-ce que ça veut dire que si on empêchait ce lobbying, la médecine coûterait moins cher ou la Sécu serait moins en déficit ?
Alors, nous, si on reste concrètement dans les résultats de notre étude, on trouve des associations entre, effectivement, le fait de recevoir un cadeau, mais pas au niveau individuel. On a travaillé sur des groupes de plusieurs milliers de médecins, on ne peut pas tirer de conclusion individuelle, évidemment, et d'avoir des pratiques de prescription, des comportements de prescription qui semblent plus mauvais. On ne peut pas extrapoler de dire que si on arrêtait ces cadeaux, tout s'améliorerait. Maintenant, ça ouvre la question, effectivement, quand même, de l'influence des firmes pharmaceutiques sur le milieu médical. Ça pose vraiment la question de pourquoi ces firmes dépensent vraiment des centaines de milliers d'euros en marketing, qui d'ailleurs dépensent plus d'argent dans le marketing que pour faire de la recherche pour de nouveaux médicaments. Ça peut paraître un peu surprenant, mais voilà. Et puis, c'est pas uniquement que chez les médecins généralistes, toutes les spécialistes légitimité sont touchés par ces cadeaux. C'est pas que pour des cadeaux, il y a plein d'autres techniques d'influence, on l'a dit tout à l'heure, l'utilisation de visiteurs médicaux, l'utilisation de leaders d'opinion qui sont payés par les firmes pharmaceutiques. Et maintenant, ça ouvre sur une autre question, effectivement, sur qu'est-ce qu'on peut faire. La première chose, c'est certainement de se dire que les médecins, ils sont peu, voire pas du tout formés sur les techniques d'influence qui sont utilisées par les firmes pharmaceutiques. Il y a pour l'instant quelques cours, quelques initiatives locales.
Ça veut dire qu'un médecin, il ne se rend pas compte quand on l'invite à déjeuner que le laboratoire espère quand même qu'il prescrivra davantage ces médicaments.
Ben,
il n'est pas naïf quand même, le médecin.
Bien, ça reste la norme, il faut bien comprendre que là, voilà, dans notre étude, il y a 90% des médecins qui ont reçu au moins un cadeau entre 2013 et 2016. Il faut bien comprendre que ça reste une norme qui est acceptée depuis longtemps et qui ne pense pas être influencée. C'est-à-dire qu'un médecin, avant tout, il pense faire évidemment le mieux pour son patient, et ça, c'est vraiment pas ça qui est remis en cause. Mmh. C'est vraiment, on est vraiment sur une influence qui est inconsciente, mais quand on n'a pas, ça fait 3 ans que je travaille sur la question des liens et des conflits d'intérêts. C'est un sujet qui est passionnant. Moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à ça. C'est vraiment, ça va vraiment au-delà des cadeaux. Hein. On est vraiment sur une partie des stratégies avec les cadeaux qui sont offerts.
Bruno Goupil.
On ne pense pas pouvoir être influencé. C'est bien ça qui ressort.
Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps et j'aimerais savoir quand même, parce que ça, c'est vraiment très important, est-ce que cette pratique est encadrée? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce que les laboratoires ont le droit de faire de tels cadeaux?
Alors, disons qu'il y a, dans les lois qui encadrent les lois dites anti-cadeaux, il y a toujours deux grands aspects, c'est-à-dire qu'une première ligne sur la loi qui dit ben, tous les cadeaux sont interdits entre les firmes pharmaceutiques et les médecins. Et puis après, il y a toute une déclinaison de dérogations. Et en fait, il y a tellement de dérogations que tout ça, c'est tout à fait autorisé. Il y a une autorisation pour faire la promotion de son médicament. Une firme a tout à fait le droit d'inviter un médecin au restaurant. Elle a le droit de lui offrir l'hospitalité. Il y a beaucoup, beaucoup de dérogations. On est dans un cadre tout à fait légal. Maintenant, on manque certainement de contre-pouvoir et, comme je vous disais, de formation d'une part pour comprendre comment ça fonctionne et aussi un moment d'accepter qu'on est vulnérable comme tout être humain et que la publicité, ça marche.
Merci Bruno Goupil, médecin généraliste et co-auteur donc de cette étude qui est dévoilée aujourd'hui sur les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins. Il est 6h28.